RCF. L'évangile de ce dimanche est une invitation à repenser la façon dont nous imaginons Dieu, sa présence au monde et son jugement. À travers l'échange que Jésus engage avec le religieux Nicodème, nos croyances, nos idées toutes faites, ce que nous avons cru comprendre de la foi sont ébranlés par une parole tranchante, libérante, une parole vraie, qui vient nous arracher à la peur, une voix amie qui nous invite à recevoir la vie, qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, cette vie en abondance offerte à ceux qui font confiance. Pour commenter cet évangile, je reçois la théologienne Myriam Tonus, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes laïque dominicaine également. Oui. Nous écoutons la parole. C'est donc chez Jean, au chapitre 3, versets 14 à 21.
De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit, ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu.
Myriam Tonus, un texte très dense. Nous sommes chez Jean. Il faut rappeler le contexte. Jésus est en train de parler à Nicodème. Oui. C'est un religieux.
C'est un théologien de l'époque. Nicodème est venu trouver Jésus de nuit. Alors, on ne sait pas très bien comment, est-ce parce qu'il a peur, mais c'est peut-être aussi parce que lui-même est dans la nuit et qu'il voit plus très clair. On peut l'entendre de différentes manières. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est sa demande. En fait, ce n'est pas une demande, c'est un constat. On ne sait pas très bien ce qu'il demande à Jésus. « Rabbi, nous savons que tu es un maître, c'est-à-dire un enseignant, qui vient de la part de Dieu, car personne ne peut opérer les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Autrement dit, moi j'entends Nicodème comme étant précisément le sachant, celui qui possède toutes les arcanes de la loi et de la foi, donc quelque chose d'assez intellectuel, qui voudrait trouver quelque part un collègue dont les propos soient confortés par des miracles, par des signes. Et Jésus va déplacer immédiatement la question, hein, puisqu'il l'invite à une nouvelle naissance.
Alors, oui.
Qu'est-ce qu'il y a de plus charnel que la naissance?
Parce que le début de la rencontre avec Nicodème, il faut le rappeler, est marqué par les paroles de Jésus au sujet du thème de la naissance. Il dit « Qui n'est pas engendré d'en haut ne peut voir le royaume de Dieu ».
Alors déjà, là, premier malentendu, évidemment, on voit notre Nicodème, grand sachant devant l'Éternel, qui dit « Mais enfin, comment ça peut se faire? Est-ce que je vais pouvoir rentrer une deuxième fois dans le ventre de ma mère ?» Donc manifestement, ça passe pas. Et à ce moment-là, ben Jésus va élever, si j'ose dire, le débat. Il dit, mais si tu ne comprends pas les choses de la terre, comment est-ce que tu vas pouvoir comprendre celles du ciel? Et c'est là qu'il dit, mais si le Fils de l'homme, nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et donc, à partir de ce moment-là, Nicodème ne va toujours pas comprendre. Quand lui dit, tu dois renaître de l'eau et du ciel, mais comment ça peut se faire? Il n'y a rien à faire. Il y a un malentendu au sens premier. Nicodème ne comprend pas ce que dit Jésus.
Mais on trouve souvent ça chez Jean,
des
sortes de quiproquos.
Oui.
Il est question d'une vraie eau pour étancher la soif, et Jésus parle d'une autre eau.
Voilà.
C'est un exemple parmi
d'autres. Et je trouve ça très, très réconfortant, parce que nous-mêmes, nous ne comprenons pas souvent. Voilà, moi, la première, il m'arrive de prendre les choses dans une parole, je ne la comprends pas, parce que ça veut dire ça. Et donc, j'aime bien que Jean se fasse le relais de nos mécompréhensions. Mais c'est vrai pour Luc aussi, hein, qui place dans la bouche de Marie au moment où Gabriel lui fait une annonce. Mais enfin, comment ça pourra se faire? Je connais pas d'homme. Voilà. C'est exactement la même chose. Sarah qui rit quand on lui annonce qu'elle va être enceinte. Le fait que les annonces de Dieu sont tellement extraordinaires que en première écoute, on peut pas les recevoir. C'est trop. Et voilà, c'est cette on en est là quand Nicodème dit enfin comment ça va pouvoir se faire.
Et alors Jésus... il y a tout un discours après, on rentre dans un discours. Voilà. Et c'est la partie de l'évangile d'aujourd'hui.
Voilà, exactement, qui commence avec ce fameux serpent d'airain.
De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Voilà. Il est question de serpent de bronze élevé dans le désert. À quoi Jean fait-il référence là ?
Alors il fait référence au chapitre 21 du livre des Nombres, versets 4 à 9. C'est un épisode, comme beaucoup de ceux du Premier Testament, qui est assez savoureux. Donc le peuple est en train de marcher dans le désert déjà depuis de nombreuses années. On sait qu'ils ont la tête dure, la nuque raide, et qu'ils récriminent assez souvent. Et voilà, petit pas qu'ils vont devoir de nouveau, Moïse va leur faire un détour. Alors là, pour eux, ils sont exaspérés. Ils se mettent une fois de plus à récriminer contre Moïse, mais aussi contre Dieu. Et c'est vrai que je n'avais jamais remarqué cela. Ils récriminent contre la manne que Dieu leur a envoyé pour qu'ils ne meurent pas de faim. Ils disent « Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable ». Et là, Dieu commence, si on peut dire, à en avoir assez de ce peuple qu'il essaye de choyer, d'accompagner, et qui manifestement n'a jamais rien à son goût. Et donc là, il leur envoie des serpents qui vont provoquer des morsures brûlantes qui en fait mourir un grand nombre.
Et alors, là, on se demande « Qu'est-ce que c'est que ce Dieu ?»
Alors, qu'est-ce que c'est que ce Dieu? Alors, ils vont trouver Moïse, fait quelque chose. Hein. Les Hébreux, dans le fond, ils sont comme des petits-enfants. Tant qu'ils peuvent râler, c'est bien. Et puis, à un moment où les choses se gâtent, alors, papa, maman, est-ce que vous êtes là? Et Moïse, qui est bon et qui est toujours prêt à se faire le médiateur, va aller négocier avec Dieu. Et Dieu va lui répondre de manière assez surprenante, va lui demander de construire un serpent en airain ou en bronze, et de le hisser au sommet d'une hampe, comme une hampe de drapeau. Et, dit-il, eh bien, si des gens de ton peuple se font encore mortes par les serpents, ils viennent, ils regardent le serpent et ils seront guéris.
Une sorte de contrepoison.
Voilà.
Par le poison.
Voilà, exactement. Et c'est ce qui se passe. Donc, voilà le contexte. Alors, pourquoi est-ce que Jésus évoque le serpent d'airain? Alors, pour un juif, évidemment, ça résonne tout de suite, beaucoup plus que chez nous. Effectivement, comme vous le dites, les juifs vont être guéris du venin de leurs paroles, parce que tout de même, ils récriminent contre Moïse, ils récriminent contre Dieu, ils récriminent même contre la manne. Il y a quelque chose d'un poison dans leur cœur. Ils ne sont jamais contents. Ils ne reconnaissent pas les dons qui leur sont faits. Et pour être guéris de ce venin, symbolisé par les morsures de serpent, il faut qu'il y ait en face d'eux l'image de ce mal. Qu'ils le regardent en face.
Qu'ils voient leur propre...
Qu'ils le voient.
Leur propre colère, voilà. Leur propre mépris, leur propre voilà. Ras-le-bol.
Et c'est de regarder en face ce mal, cette violence, qu'ils vont être guéris. Et on pourrait dire, oui, le Christ va être élevé sur la croix. Et c'est vrai que si on ne voit dans un crucifix que la représentation matérielle d'un homme torturé et mis à mort, il y a là quelque chose de totalement insupportable qui n'aide pas le croyant, qui engendre des culpabilités infinies. Hein, c'est à cause de nous si Dieu est mort, etc.
Faut rentrer dans une lecture symbolique alors ?
La mort de Jésus, qu'est-ce que c'est ? C'est l'apparente victoire de la violence. Jésus qui, lui, n'avait pour arme que la douceur et la puissance de sa parole, va être mis à mort par ceux qui en sont les gardiens de l'orthodoxie de la parole. C'est le juste qui est mis à mort, ce que disait Pilate, la femme de Pilate. Cet homme n'a rien fait, c'est injuste. Autrement dit, Jésus est vraiment le concentré, l'image, l'icône de toutes les violences qui s'exercent contre un humain innocent, et non seulement ici innocent, mais qui a tout fait pour détruire lui-même la violence. Et donc, si nous regardons cette image, nous voyons notre propre violence, celle qui est en nous, celle qui est toujours prête à se déchaîner, à détruire, à médire, à minimiser, enfin voilà, c'est... Donc, de la même façon que ceux qui étaient mordus par le serpent, regardant le serpent, étaient guéris, si le Fils de l'homme est élevé et que nous osons regarder sa mort en face, nous aurons, dit l'évangéliste, la vie en plénitude. C'est la même chose, nous serons guéris de notre violence.
Myriam Tonus, l'évangéliste Jean dit qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin qu'en lui, oui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Il y a le mot croire qui est très important chez Jean. Et puis la vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Croire permet d'être dans la vie éternelle, d'avoir la vie éternelle. Qu'est-ce que vous diriez?
Alors, croire d'abord, soyons tout à fait clairs dans tous les évangiles, pisteo, le verbe pisteo, signifie faire confiance. S'en remettre. Pour moi, l'image qui me vient spontanément quand on me parle de foi, vous avez peut-être vécu cette situation, si vous avez été en contact avec des jeunes enfants de 2-3 ans, ils grimpent sur un escalier et sur la cinquième marche, ils ouvrent les bras et disent « Tu me rattrapes !» et ils se lancent dans le vide. C'est quelque chose, moi, qui me provoquait toujours, me crispait le ventre quand un de mes enfants se jetait comme ça. Parce qu'il y avait une telle confiance que j'avais moins confiance en moi, disant « mais je peux pas ne pas le rattraper, qu'est-ce qui se passe si jamais je le rate ?»
Et lui, il pense que c'est sûr.
C'est certain.
C'est certain pour lui.
C'est certain. Pour moi, c'est ça la foi. Et remarquons que ce n'est pas nécessairement... Alors, un enfant, il a parfaitement confiance en son parent. Après, on hésite quand même. Il y a des gens auxquels on hésite à faire confiance parce que peut-être, etc., on se met à douter. La foi nue, c'est celle-là. Et donc, la foi dont parlent les évangélistes en général, croire en Jésus, ce n'est pas croire en un contenu, c'est pas croire que ses paroles sont vraies. On ne dit pas dans le credo « je crois que Dieu ». On dit « je crois en Dieu ». Et cette différence de conjonction est tout à fait fondamentale. Je crois que Dieu est un Père Tout-Puissant. Non, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Je ne crois pas que Jésus-Christ est son Fils unique, je crois en. Autrement dit, c'est un acte existentiel, proprement. Donc, ceux qui croient en Jésus, alors, sont appelés à devenir frères, à entrer dans cette filiation et cette filialité divine. Et là, on a alors cette renaissance dont parlait Jésus à Nicodème, qui ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. C'est la renaissance d'une vie biologique, la bios en grec, qui se trouve exaucée, élevée elle aussi, au statut de la zoé. La zoé dans la Bible, c'est la vie en plénitude.
La vie vivante.
La vie vivante, pleinement humaine, nettoyée de sa violence, nettoyée de sa grisaille et de ses incertitudes. C'est quelque chose évidemment qui est toujours en devenir.
Et c'est ça la vie éternelle.
Et c'est ça. Alors ça n'a rien à voir avec une temporalité. Le problème pour nous de l'éternité, c'est que nous la pensons sous notre mode d'un temps qui ne finit pas, auquel cas, comme disait Woody Allen, ça devient long, surtout à la fin, alors que, précisément, l'éternité, c'est la sortie du temps et de l'espace. Autrement dit, nous ne pouvons pas la penser. Comment penser un temps, un espace, ou je sais pas, un monde sans temps ni espace? Pour nous, c'est radicalement impossible. Ce serait comme de demander à un fœtus de 6 mois d'imaginer sa vie hors de l'utérus maternel.
Myriam Tonus, nous continuons à lire l'évangile de ce dimanche, oui, chez Jean, chapitre 3, versets 14 à 21. Donc après avoir évoqué l'élévation du Fils de l'homme, Jean poursuit « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. » Donc on retrouve cette idée de croire et de vie éternelle. Le monde, il est question du monde. Il a tant aimé le monde.
Alors moi, c'est une phrase qui me bouleverse. Dieu a tant aimé le monde, et là c'est l'agapé, donc c'est cet amour en plénitude qui veut la vie. L'agapé, c'est vouloir la vie de l'autre. Dieu a tellement aimé le monde. Alors le monde, chez Jean, peut avoir, selon les versets, deux acceptions. Parfois c'est le monde au sens des tentations qui nous assaillent, de nos petitesses, de nos violences. Mais ici c'est le cosmos, c'est la création. Dieu aime tellement sa création, et c'est quelque chose qui me bouleverse. Ce n'est pas un démiurge qui est très fier de ce qu'il a fait et qui contemple ça du haut de sa gloire. Non, il aime le monde à un point qu'il a donné son Fils. Parfois, on a traduit par « envoyé », mais non, il n'a pas envoyé son fils, il lui a donné. Quand on donne, on ne reprend pas. C'est le don suprême. Autrement dit, moi je pose parfois la question « et nous ?» Est-ce que nous aimons le monde ? Et je le pose souvent dans certains milieux catholiques, où on est parfois tellement prompt à se dire « mais non, mais le monde est mauvais, regardez le monde des jeunes, le monde des prisonniers, le monde des prostituées. »
Le monde économique.
Voilà, le monde économique, enfin le monde est mauvais, à la limite il vaut mieux. Aujourd'hui on dira qu'il s'effondre, et on trouve pas mal de collapsologues parmi les chrétiens. Pour moi, il y a là quelque chose qui me paraît quand même assez étrange. Il faut quand même relire le livre de l'Apocalypse. Bon, est-ce que nous aimons le monde au point de donner ce que nous avons de plus cher ? Parce que c'est ça. Et donc, c'est une bonne nouvelle de dire, mais Dieu, pourquoi est-ce qu'il nous a donné son Fils ? Pourquoi est-ce que sa parole a pris chair ? Parce qu'il nous aime, parce qu'il aime sa création et qu'il a envie que ses créatures aient une vie semblable à la sienne. Et c'est vrai que dans la Genèse, si on prend au sérieux, il a créé l'humain à son image et à sa ressemblance. Et Paul, dans sa lettre aux Romains, utilisera aussi submorphos, c'est-à-dire ils sont faits de la même conformation que Jésus. C'est quelque chose qu'on a vraiment du mal à intégrer, je pense, dans la foi.
Myriam Tonus, Dieu a donc donné son Fils au monde, vous l'évoquiez.
Oui.
Et alors Jean continue, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Alors, nous allons revenir sur cette notion de jugement.
C'est l'occasion de s'affronter à un des gros mots de la Bible qui est le jugement.
Le jugement qui a fait couler tellement d'encre et surtout suscité un imaginaire terrifiant souvent.
Ah, oui, parce qu'alors en plus il y a le jugement ultime, le jugement dernier qui nous attend à l'heure de notre mort, etc., etc. Alors, le verbe qui est utilisé dans la Bible pour dire juger, puis qui a donné un substantif, c'est krinein, qui a donné krisis. Krinein, c'est discerner, distinguer. Distinguer ce qui est vrai et faux.
Amener de la clarté, alors.
C'est faire la clarté. C'est distinguer. Et krisis, c'est donc le moment où on ne peut plus se mettre la tête dans le sable. C'est le moment où les choses éclate. Vous savez, on a parlé de la crise du coronavirus. Oui, c'est une crise. Parce que là, tout d'un coup, chacun et chacune, et le confinement a accentué ça, s'est retrouvé face à ce qu'il ou elle est. Et ça a provoqué des déplacements, des remous par le fond, des remises en question. En chinois, l'idéogramme qui signifie la crise est fait de deux membres. Un qui signifie danger, et l'autre, opportunité. Eh bien, c'est ça la crise. C'est un moment dangereux, mais contrairement à la crise de foi physique, une crise de foi, généralement, ça cesse, et puis une crise d'asthme, et puis on revient à l'état antérieur. La crise, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'il en est ? Je dois, cette fois-ci, faire le vrai, faire la vérité. Et donc, quand on dit « Jésus n'est pas venu pour juger le monde », ce n'est pas pour le condamner. Il y a en grec un autre mot qui désigne le jugement judiciaire, mais ce n'est pas celui-là qui est utilisé.
Donc, il est venu pour que nous puissions…
La vérité se fasse.
Pour que nous puissions discerner.
Voilà. Il faut se tirer de la tête d'un Dieu qui viendrait comme un comptable. En fait, c'est une représentation qui a été héritée d'autres civilisations. La pesée des âmes, on la trouve déjà chez les Égyptiens, dans des civilisations assyriennes, où là, il s'agissait quand même de rendre des comptes. Et puis là, on est dans une espèce d'extension de la justice humaine qui évalue et puis qui essaye par des comptes plus ou moins subtils et plus ou moins adaptés de faire en sorte que personne ne perde rien et ne gagne rien sur le dos de l'autre. C'est pas ça du tout. Vous savez, quand on parle de jugement dernier, en français nous disons, quand on a une discussion et qu'on ne sait pas très bien comment les choses évoluent, en ultime instance, disons-nous, ça veut dire en dernier ressort. Je pense que le jugement dernier, c'est ça. Il y a un moment, et peut-être oui, effectivement, le moment de la mort, c'est l'ultime instant
où on ne peut plus tricher.
On ne peut plus tricher. Et c'est le moment aussi, et ça paraît totalement injuste, où un être humain peut faire un retournement, qui est symbolisé dans l'évangile par celui qu'on a appelé vilainement le mauvais larron, qui se tourne vers Jésus. Et la grâce, nul ne peut dire ce qu'il en est d'un être humain. Est-ce qu'Hitler, au moment où il a appuyé le pistolet sur sa tempe, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Nous ne le saurons jamais. C'est vraiment cet ultime moment, et je pense que c'est un cadeau qui est fait à notre liberté.
Enfin une bonne nouvelle, Béatrice Soltner.
Myriam Tonus, le texte est très dense, on n'aura pas le temps de tout dire, mais je reviens sur l'idée que on échappe au jugement quand on croit. Puisque c'est ce que dit Jean, celui qui croit au Fils échappe au jugement. Oui. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au Fils.
Oui,
qu'est-ce que ça veut dire ça?
On attend toujours le complément par qui? Mais non, je dirais quelque part, on se juge soi-même. Le jugement, il vient de lui-même. Et on a là cette opposition entre ceux qui font, alors littéralement, le texte est très beau, des œuvres œuvrées en Dieu. C'est-à-dire qui font, le verbe c'est poiein, c'est-à-dire qui créent la vérité, qui agissent, qui sont des créateurs. Et ceux qui font le mal. Alors là, il y a une petite expression grecque, phaoula prasso. Finalement, on traduirait, c'est être un mauvais artisan. C'est pas faire le mal volontairement, être quelqu'un de totalement pervers, c'est faire les choses à côté.
C'est-à-dire qu'il a la possibilité de créer sa vie, de créer avec d'autres, et il rate.
Voilà, il rate et il bricole mal. Et donc, on a peur de la lumière. Pourquoi? Parce que dans la lumière, les choses apparaissent pour ce qu'elles sont.
L'œuvre apparaît.
Elle apparaît. Et donc, se fier à Jésus, croire en Jésus, en Dieu, c'est se mettre dans sa lumière. Et on n'a pas besoin d'un jugement extérieur. On sait très bien, à certains moments, qu'on bricole avec soi-même, qu'on prend des mauvais aménagements, qu'on a des lâchetés, qu'on ne veut pas voir les choses en face, que on ne fait pas, comme dit Paul, ce qu'on voudrait faire, mais qu'on fait ce qu'on ne voudrait pas. La parole, elle éclaire ça. Et sauf si on est d'une mauvaise foi absolue, on n'a pas besoin que quelqu'un nous le dise. Et donc, croire en Jésus, c'est se mettre dans cette lumière qui nous permet. Mais alors, sans jugement, puisque Dieu lui-même ne juge pas au sens porter un décret négatif à propos d'une personne, une condamnation, nous n'avons pas à nous condamner non plus. Faire la lumière ne signifie pas qu'on doit se dire « mon Dieu, je suis mauvais, je suis imparfaite, je suis médiocre ».
Et pourtant, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire à la messe.
Je sais. Je le regrette infiniment, moi je ne peux plus entendre ça. C'est pas le ton de l'évangile, ce n'est pas la saveur de l'évangile. La saveur de l'évangile, c'est il n'y a pas d'humain condamné, mais ça ne veut pas dire alors on peut faire ce qu'on veut. Non, c'est cheminer, pouvoir passer ces moments de crise où on peut se dire soi-même, mais oui, je suis un errant, oui, j'ai encore fait aujourd'hui ce que je ne voulais pas, mais comme on dit dans les béatitudes, allez, yalla, en avant, en marche, je reprends, je me redresse. Et donc, je ne peux pas me juger de moi-même. Vous savez, il y a ce très beau verset chez Jean aussi, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et donc, il y a chez cet évangéliste cette affirmation centrale, fondamentale, donc en fondement, que l'amour de Dieu est plus grand que tout. Et si on se fie à cet amour, alors on aura à la fois le courage de regarder en face les dimensions de notre vie, qui sont souvent très, très imparfaites, marquées par l'échec, mais en même temps, on aura le désir de se remettre en route.
Myriam Tonus, vous nous avez entraînés vers une autre compréhension du jugement. Quelle est la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui quand on lit ce texte, nous qui avons justement tendance à déformer l'évangile ou le comprendre d'une manière un peu tordue.
Oui, alors je pense qu'il y a deux enjeux. Il y en a un pour nous, effectivement, qui est, mais ça, vous savez, je pense que vous êtes bien placé pour le savoir dans cette émission, l'évangile, on doit tout le temps le reprendre. Et on doit le reprendre avec en tête un principe de fond auquel on ne dérogera jamais, en principe, c'est une bonne nouvelle. Donc, si c'est une heureuse annonce pour ma vie, pour la vie des humains, si j'entends quelque chose qui culpabilise, qui rend malheureux, ce n'est pas que cette annonce est ainsi, c'est que je ne l'entends pas. Et donc, il faut travailler.
Autrement dit, si ce texte, je le lis et vraiment, je ressors avec de l'angoisse, de la peur...
Je ne comprends pas. Alors, ce que je dois dire, c'est je ne comprends pas. Il y a en moi quelque chose, alors qui tient peut-être, je dirais, au mot. C'est quand même, évidemment, savoir que le jugement dans la Bible n'est pas le mot qui désigne la condamnation judiciaire. Ça, c'est quand même important. Voilà. Mais on a quand même aujourd'hui suffisamment de moyens médiatiques et de livres et d'articles...
De
bonnes traductions, quand même, pour s'informer. Mais la foi demande un travail. Vous savez, dans la prédication chez les dominicains, le pilier de l'étude, il est central. Et encore une fois, non pas parce que étudier, ça vous fait meilleur que les autres, simplement parce que ça permet d'entrer dans une compréhension plus ajustée de la parole. Donc, il y a un aspect qu'on doit peut-être retrouver dans le catholicisme qu'on a davantage chez les protestants, qui est l'étude de la parole. Ça, c'est une première chose. Et donc, on découvre que c'était... Et il se peut aussi qu'il y ait des textes qui ne nous parlent pas. Parce que simplement, notre vie est dans des circonstances telles qu'on ne peut pas entendre cette parole.
Un texte qui a pu nous parler avant, qui pourra nous parler après, mais qui aujourd'hui
ne nous parle pas. Et donc, il faut le laisser. On le laisse de côté et puis on passe à autre chose sans vouloir gloser. Et la deuxième bonne nouvelle quand même, c'est de dire qu'être dans la vie et une vie selon Dieu, c'est aimer le monde. L'amour, il est sans complaisance. L'amour, il peut être apparemment dur. Quand on aime un enfant... Mais on ne le laisse pas se perdre, on ne le laisse pas faire tout ce qu'il veut, parce qu'on voit bien que à terme... Il va dans le mur, ça ne va pas le construire. Donc, aimer le monde, ça ne veut pas dire qu'on accepte tout ce qu'il nous propose, toutes ses manières d'être. Mais fondamentalement, ça veut dire aussi qu'on n'a pas un jugement dépréciatif. Et je crois que là, dans le monde catholique, on a vraiment de grands efforts à faire pour ne pas se placer au-dessus. Et si on veut vivre dans cette filialité divine, qui est de dire si Dieu a tant aimé le monde, comment nous, est-ce que nous pouvons l'aimer vraiment? Et je ne pense pas que ce soit en s'en écartant, en se croyant pur, ou au contraire en allant l'accabler de mépris et de jugement. Je ne pense pas que ce soit de l'amour. Donc il y a là vraiment, pour moi, c'est une bonne nouvelle.
Merci à vous, Myriam Tonus. Je signale la parution de votre dernier livre, L'Évangile dans la chair. C'est chez Jésuite, édition Jésuite Fidélité. Je renvoie nos auditeurs à l'Évangile de Jean qu'ils pourront lire. Chapitre 3, versets 14 à 21. Merci à Christophe Morag à la technique.